Bonjour, cette semaine, je reçois un ancien trader, un moine, un professeur d'université, un écrivain, un engagé dans les cités défavorisées de Marseille, et je reçois aussi le conseiller du film des hommes et des dieux, le tout rassemblé en un seul homme, puisque mon invité n'est autre qu'Henri Quinson.
Bonjour.
Ça vous fait rire, mon...
Ben oui, c'est toujours étonnant d'entendre tout ça, oui, on est tous des êtres un peu mystérieux.
Oui, ouais. Oui, quel parcours.
Oui, c'est un parcours étonnant, mais vous savez, si vous prenez le parcours de gens célèbres du type, je sais pas, Gandhi ou Martin Luther King, vous trouverez que c'est aussi très surprenant. Et puis si vous prenez le parcours de gens totalement inconnus qui ne vont pas passer à la radio ou à la télévision ou écrire des livres, vous avez des parcours très surprenants. Et j'en ai vu beaucoup, beaucoup, notamment dans les monastères, dans les cités HLM et aussi parmi les acteurs de films. Donc je crois que voilà, il faut accepter d'être étonnant et il faut avoir la joie de s'étonner de son propre parcours. Mais c'est vrai que, si vous voulez, je crois qu'à un moment donné, quand j'avais écrit un récit autobiographique qui s'appelle Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, le fait qu'il soit sorti au moment de la crise financière des subprimes, dont on n'est pas encore sorti, je crois que le fait d'avoir effectivement un trader qui a passé quelques années à monastère de Tamiers, qui après a passé des années dans une cité HLM de Marseille, c'était un peu emblématique d'une espèce de parcours à contre-courant de notre société qui privilégie plutôt l'argent, éventuellement peut s'occuper un petit peu des cités HLM, mais surtout n'a pas de temps à perdre avec la spiritualité. Encore que je me méfie beaucoup de tous ces discours-là qui me paraissent un peu stéréotypés. Je pense qu'au contraire, il y a un réservoir fantastique à la fois de générosité, de fraternité et également de profondeur spirituelle. Mais peut-être n'ose-t-on pas en parler.
Revenons à votre genèse, justement. Pourquoi avoir fait des études donc Université Panthéon-Sorbonne en économie internationale, diplômé de Sciences Po Paris et une formation donc justement de trader à Wall Street. Qu'est-ce qui vous a orienté vers la finance au départ?
Écoutez, mon père était banquier, donc il y a peut-être un atavisme familial. Ceci étant, je suis le seul de mes quatre frères à avoir étudié dans cette direction-là. J'ai toujours été très intéressé par les sciences sociales. Je pensais devenir professeur. J'ai travaillé pour un ancien Premier ministre qui était lui-même professeur d'économie, qui était Raymond Barre. Mmh. Et je m'intéressais aussi à tout ce qui était international et plus spécifiquement monétaire, un peu par curiosité intellectuelle, mais aussi parce que l'argent n'a pas de frontières, que je suis franco-américain, que je suis bilingue et que je pressentais aussi que dans ces métiers-là, j'aurais la possibilité d'utiliser mon autre langue qui est l'anglais. Et j'ai toujours été en fait fasciné par les métiers qui sont à la fois techniques. Et à l'époque, dans les années 80, quand je suis rentré sur les marchés financiers, c'était le début de ce qu'on appelle les produits dérivés. Mmh. Moi, je me suis spécialisé après dans les options de change. Et donc, c'était intéressant parce qu'il fallait comprendre et expliquer de nouveaux produits. C'était donc une dimension technique. C'était aussi une dimension relationnelle parce qu'il fallait aller voir des clients, aller voir des banques et leur expliquer ces nouveaux instruments. Donc, il y avait cette dimension relationnelle. Et puis, la dimension internationale, le fait de parler dans plusieurs langues, de travailler dans un environnement cosmopolite qui finalement a toujours été le mien parce que j'ai vécu à la fois à New York, à Bruxelles, à Paris, dans des grandes villes, avec beaucoup d'amis étrangers, et que pour moi je me sens, c'est vrai, plus spontanément à l'aise dans des milieux un peu déracinés plutôt qu'au fin fond du Texas ou au fin fond de la France profonde. Encore que j'ai toujours peut-être un peu envié les gens qui peuvent dire je reviens au village où j'ai toujours vécu. Mon village, il fait la population de la Belgique à New York, donc j'ai pas ces références-là, même s'il y a quelques références personnelles liées à mes vacances au bord du lac d'Annecy, par exemple. Mais voilà.
Déraciné, vous sentez déraciné, c'est ce que vous nous dites?
Je crois que on a tous forcément des racines, mais c'est vrai que un arbre qui est régulièrement transplanté essaye de vivre peut-être un peu plus, et ça existe dans la nature un peu par ses feuilles, ses branchages, etc. Et un système de racines différent. Et je crois que finalement mes racines, au gré de mes pérégrinations, sont devenues de plus en plus spirituelles, peut-être aussi d'une certaine manière linguistiques, c'est-à-dire que je prends toujours plaisir à lire de l'anglais ou à écouter de l'anglais ou à parler anglais, bien que ces dernières années je n'ai pas vécu aux États-Unis, j'y suis retourné de temps à autre. Mais et sur le plan spirituel, j'ai de plus en plus, moi, approfondi la spiritualité biblique, à la fois juive et chrétienne, qui consiste à dire qu'on est pèlerin sur la terre et que finalement nous ne sommes là que de passage, nous sommes des étrangers. Et donc accepter de regarder les autres comme des étrangers, mais de se regarder soi-même aussi comme un étranger, et de faire cette expérience profonde d'être dans l'étrange. Moi je trouve ça très stimulant, ça peut faire peur, mais en fait une fois qu'on est entré là-dedans, je pense que justement on fait un pas dans ce que l'évangile appelle le royaume de Dieu, et plus on fait un pas dans cette direction, plus on va se rendre compte qu'on est entouré d'étrangers qui savourent ce détachement et en même temps je dirais aussi cet attachement encore plus grand au monde qui nous entoure, parce qu'il est précieux, bien qu'il s'agisse de choses qui passent et d'êtres aussi qui vont mourir, évidemment pour moi aussi ressuscité, mais voilà, donc progressivement ça crée des liens parmi ces citoyens du ciel. D'accord. Voilà, et on est un petit peu comme dans les films de science-fiction, on parle des mutants, on fait un peu partie des mutants et on se reconnaît entre mutants, et c'est ça qui est assez amusant, et ces rencontres peuvent se produire aussi bien dans un monastère que dans une cité HLM, que sur un film, et même sur les marchés financiers, où j'ai rencontré aussi des gens qui se posaient plein de questions.
Ils sont humains ? Donc, ils restent humains, donc, les traders ?
Oui, moi je pars du principe que en tout homme, il y a toujours une petite lumière, quelquefois.
Non, mais ils ne l'ont pas oublié, leur part d'humanité ?
Certains d'entre eux, non. Il y a des gens qui sont...
Certains d'entre eux.
Non, mais vous avez raison de dire qu'il y en a pour qui, si vous voulez, la cupidité est devenue une vertu, alors que dans les sept péchés capitaux, enfin, qui sont une liste établie par un vieux moine évagre le pontique qui était un petit peu plus subtil que ce qu'on a fait. Mmh. Mais si vous voulez, cet attachement maladif à l'argent, on le trouve dans ces milieux-là, pas seulement dans ces milieux-là. Et est-ce qui fait problème, c'est que effectivement, conduit par la cupidité, on peut finir par instaurer ce que Jean-Paul II appelait des structures de péché. Et je crois qu'aujourd'hui, la question est posée effectivement de l'organisation financière de la planète. Et la question n'a pas été encore sérieusement abordée. Et que pour moi, essentiellement, c'est une question spirituelle. Et donc, dans ces milieux-là, vous avez à la fois des gens qui effectivement, pour un temps en tout cas, ne se posent pas de questions, ou s'ils se posent des questions, ils ne les regardent que dans leur intérêt, à court terme et personnel. Et puis vous avez quelques personnalités qui se posent des questions, qui à certains moments décident de quitter le navire, et d'autres qui essayent de se lancer dans des réformes. Voilà. Mais voilà, vous avez tout ça. Et ma lecture de l'histoire de l'humanité, à la suite de gens comme Gandhi ou Martin Luther King, c'est que dans la résistance, j'insiste sur le mot résistance non violente, eh bien justement, il y a un certain nombre de personnes qui prennent conscience de certains enjeux, qui sont capables tout à coup de les comprendre, de les exposer, et c'est là où l'éducation et les œuvres d'art sont extrêmement importantes, parce que ça permet d'éveiller la conscience chez des êtres qui peut-être ne sont pas sensibles à ces questions. Et à partir de là, mais seulement à partir de là, on peut changer éventuellement justement ces structures, les institutions, les lois et les comportements.
Et à votre avis, combien de temps ce système boursier totalement déconnecté d'une part de la productivité des entreprises et de l'homme va continuer ?
Je pense qu'à très court terme, il va y avoir une autre crise beaucoup plus importante que la dernière, qui va à nouveau mettre à nu les nœuds centraux du problème, et qui va à nouveau acculer la planète, alors à travers ses dirigeants, mais les peuples évidemment peuvent...
Acculer, vous l'avez bien dit,
ah oui, acculer, hein. Oui, ouais. Tout à fait, parce que... si vous voulez, on n'a pas besoin d'avoir fait des très grandes études pour comprendre que l'économie la plus riche du monde, quand elle est surendettée et que le financement...
Je parle des États-Unis. Tenue par la Chine.
Voilà, et je suis moi-même américain, donc je ne fais pas là de l'anti-américanisme français primaire. Mais je crois qu'à un certain moment, il faut se poser la question de savoir comment se fait-il qu'on s'installe dans un déséquilibre où les plus riches se font financer par les plus pauvres, ou en tout cas par des pays émergents qui jadis étaient très pauvres et qui effectivement sont en train de construire leur prospérité sur ce déséquilibre, mais jusqu'où ? Et à un moment donné, je crois qu'il va y avoir une heure de vérité, et que la structure, alors quelques personnes me disent, oui, mais il ne faut quand même pas dramatiser, c'est pas un mal de s'endetter, c'est vrai que c'est pas un mal, même je trouve moi personnellement génial l'invention de la monnaie et la possibilité de faire des arbitrages dans le temps. Vous n'avez pas assez d'argent, eh bien vous allez emprunter auprès de quelqu'un qui en a trop, et puis vous lui remboursez. Le problème, c'est le surendettement, et le problème, c'est la structure démographique de nos pays riches, dans lesquels les jeunes vont venir à manquer. C'est lié d'ailleurs à tout un discours sur la fécondité. alors qu'on peut trouver complètement ringard, voire réactionnaire. Mais c'est vrai qu'avoir de moins en moins d'enfants, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les mentalités, sur la culture. Et moi qui ai eu la chance de me rendre assez souvent, par exemple, en Algérie, où la moitié de la population a moins de 30 ans, je vois qu'il y a des différences, alors quelquefois qui vont s'exprimer très violemment parce qu'il n'y a pas de débouché pour cet appétit qui est celui de la jeunesse, légitime. Mais aussi dans nos pays, il va y avoir des problèmes. Il y a déjà des problèmes d'équilibre des comptes sociaux, il y a des aspects comptables. Et donc l'articulation entre le surendettement, la pyramide démographique et au contraire la pression démographique qu'on trouve pas très loin, à une heure d'avion ici de l'autre côté de la Méditerranée notamment, fait que la résorption de ces déséquilibres se fera soit par des réformes courageuses qui peuvent prendre du temps, soit par des explosions successives qui peuvent être plus ou moins importantes. Et donc finance, démographie, justice sociale et spiritualité, c'est-à-dire quelles sont nos valeurs, eh bien tout ça est complètement lié, et qu'au fin fond de ces questions, on va se dire, voilà, quel est notre projet pour la planète? Nous sommes 6 milliards d'êtres humains, on est capable d'organiser l'espace aérien pour que les avions ne se rendent pas dedans. Est-ce qu'on est capable d'organiser un monde dans lequel, dans un pays comme la France, très modéré, on a quand même des écarts de salaire de 1 à 300 entre le SMICAR et la moyenne des patrons du CAC 40, alors que Platon proposait des échelles de rémunération de 1 à 5. Donc peut-être est-il temps de philosopher à une heure, au contraire, où les gens préfèrent se divertir de manière un peu bête et oublier tous ces problèmes et en fait ne penser qu'à eux-mêmes. Ben, c'est plus possible. Et donc la réalité, pour moi la spiritualité c'est un réalisme, et bien la réalité qui est essentiellement spirituelle finira par nous rattraper. Elle nous rattrapera peut-être à travers des choses très matérielles comme la gestion de des finances à l'échelle internationale.
C'est en fait tout simplement, sans changer le système, c'est revenir aux valeurs de l'être humain, où est la place de l'être humain.
Exactement, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de reconnaître que derrière toutes nos activités matérielles, en fait, ce qu'il faut, c'est s'attacher aux choses qui ne passent pas. Les choses qui ne passent pas, c'est, on peut l'appeler Dieu, c'est un mot très, très piégé. Mm-hmm. Mais je veux dire que la réalité invisible au cœur de l'homme est aussi réelle que ce qui relie deux téléphones portables. On ferait revenir quelqu'un il y a 100 ans et on lui montrerait, voilà, je parle avec ce petit objet à quelqu'un qui est à New York, il ne croira pas, il ne sera pas capable de faire cet acte de foi. Mais l'acte de foi, une fois qu'on sait qu'effectivement c'est vrai parce qu'on l'a expérimenté, c'est plus un acte de foi, c'est simplement la réalité. Eh bien, c'est une comparaison, mais je dis que de la même manière, on peut penser que la réalité spirituelle qui nous relie, et donc c'est la capacité des hommes de se dire que non, c'est injuste s'il y a quelqu'un qui meurt de faim. C'est injuste qu'il y ait 1 milliard de personnes qui ont des problèmes d'eau, alors que nous, il suffit d'ouvrir le robinet. Alors, on peut vivre comme ça en essayant de ne pas regarder ça. Mais aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, on a ces informations-là. Donc on est obligé de se préoccuper. Et je crois que des gens comme Teilhard de Chardin, qui parlait de la noosphère, donc cette espèce de couche qui se rajoute à l'humanité, qui nous permet comme ça d'être interconnectés, de sentir finalement la souffrance de l'autre qui pourtant est très très loin, eh bien ce monde est devenu de plus en plus petit. Et on a exploré la surface de la Terre, et aujourd'hui je crois qu'il faut explorer l'intérieur de l'homme. Et dans cette exploration ultime, on va retrouver effectivement toutes ces questions matérielles d'organisation sociale qui se posent à nous aujourd'hui.
Vous étiez épanoui quand vous étiez vous-même trader ?
Je suis beaucoup plus épanoui aujourd'hui que je n'étais à l'époque.
Mais vous étiez épanoui, donc vous n'étiez pas, alors ce que vous êtes en train de me dire.
Ah, vous savez, l'épanouissement, c'est un long travail jusqu'au cercueil. Non, je crois que j'étais à la fois pendant plusieurs années intéressé et stimulé notamment par ce travail. Ma vie ne se résumait pas à mon travail. Mais au bout de 4 ans sur les marchés financiers, j'étais comme un voilier dont les voiles commençaient à partir un peu dans tous les sens, parce que je n'arrivais plus à repérer d'où venait le vent. Et visiblement, pour moi, il fallait à ce moment-là m'orienter de manière différente. Et c'est là que j'ai pris une décision peut-être un peu radicale, mais d'aller rejoindre le monastère de Tamis en Savoie, où tout à coup, au lieu de gérer 15 milliards de dollars avec 4 de mes collègues, c'est à peu près l'équivalent du budget de la Tunisie à l'époque, je me suis retrouvé dans un monde de silence avec 7 offices par jour à retourner les fromages au fond d'une cave. Et là, j'ai pu mesurer effectivement que voilà...
28 ans, hein, vous aviez.
J'avais 28 ans à l'époque, voilà.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On est trader, on se lève le matin, on se dit ras-le-bol, je pars à la vie de Tamier.
si vous voulez, en ancien trader, je peux vous dire qu'un bon investissement se prépare longtemps à l'avance, il faut réfléchir longtemps à l'avance, mais qu'à un moment donné, il faut prendre sa décision. Voilà, ouais. Il faut essayer de la prendre au bon moment.
Ah, vous voulez dire que ça a été mûri, c'est pas un coup de tête.
Et donc ça a été mûri.
D'accord.
À l'âge de 20 ans, en fait, alors que j'étais étudiant, j'ai fait une expérience spirituelle assez forte. À l'époque, je venais d'une famille unie, matériellement, j'avais pas de problème. Mes études, j'ai jamais raté une année d'études, et donc j'avais aucune raison de me plaindre. Et je sentais une insatisfaction profonde. Je suis tombé sur un livre écrit par Carlo Caretto, un Italien, ça s'appelait « Lettres du désert », ça aurait pu être un autre livre, et il parlait de la prière, mais pas du tout pour expliquer ce qu'était la prière, mais c'était une invitation à faire une expérience de prière. Et comme jeune adulte, je me rendais compte que, autant j'étais familier avec les messes, etc., ma famille est chrétienne, mes parents catholiques,
Donc vous avez baigné dans une éducation religieuse.
Voilà, exactement. Hein? Donc pour moi, c'était pas du tout un corps étranger. Mm-hmm. Simplement, comme jeune adulte, je n'avais pas une relation personnelle à Dieu. Alors pour moi, ces mots-là, c'était du chinois. Mm-hmm. Et quand je me suis retiré dans ma chambre cet été-là, à 20 ans, j'ai fait cette expérience d'une paix et d'une joie profonde, simplement en faisant la prière de Charles de Foucault. « Mon Dieu, si tu existes, fais-toi connaître à moi. » Et donc, tout à coup, j'ai eu cette espèce d'expérience que j'ai retrouvée dans d'autres traditions qu'on va appeler illumination, par exemple dans le bouddhisme. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était une expérience que d'autres avaient faite. Et à partir de là, j'ai commencé à me cultiver un petit peu sur les religions.
Vous avez eu une illumination, c'est ce que vous venez de nous dire?
Oui, moi j'ai été...
Illuminé.
Ben, je reprends cette expression parce qu'on la trouve dans la tradition chrétienne, juive, bouddhiste.
Et ça s'est passé
hindoue.
Comment alors, concrètement? Ça se passe comment d'être illuminé?
C'est impossible à décrire. On peut simplement en décrire les effets. C'est-à-dire que tout à coup, les gens autour de vous disent « Ah ben Henri, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as changé. » Et dans mon cas, ce qui était intéressant, c'est que le changement, c'était des choses... qui feront sans doute sourire les auditeurs de Radio Notre-Dame, mais tout à coup je me disais, ah bah tiens, je pourrais effectivement m'occuper de la vaisselle quand je suis chez mes parents en vacances, c'est pas interdit de rendre des services. Ouais. Donc cette illumination m'apportait une paix personnelle qui pouvait être très égocentrique finalement. Mmh. Je suis malheureux, je me sens pas bien, bah tout à coup je me sens mieux. Donc, et je crois qu'aujourd'hui il y a une spiritualité qui n'est pas sans danger parce qu'elle s'arrête souvent à une espèce de confort auquel on a droit, bien sûr, mais je crois que la spiritualité chrétienne, elle nous invite à nous tourner vers l'autre et finalement à ne pas être centré sur soi, mais d'entrer progressivement et de faire que en nous-mêmes, finalement, l'humanité est une. Voilà, c'est une pensée très forte, par exemple, chez l'apôtre Paul, mais qu'on retrouve dans les sagesses d'Extrême-Orient. Mm-hmm. L'idée que si on fait du mal à quelqu'un, c'est comme si on se coupait son propre bras. Eh bien, l'expérience intérieure authentique, elle vous pousse justement à être en relation avec les autres. Donc pour moi, la réalité spirituelle m'est apparue comme une relation avec celui qu'on appelle Dieu, donc cette divinité qui pour moi, chrétien, est amour. Mm-hmm. Et donc, comme le dit l'écriture chrétienne, celui qui dit qu'il aime Dieu mais qu'il n'aime pas son frère est un menteur. Donc la manière de vérifier la réalité de cette expérience spirituelle invisible, c'est dans le visible et c'est dans la qualité de relation avec les autres où on retrouve justement toutes les questions qu'on a évoquées sur notre faculté en tant qu'humanité de vivre fraternellement. Et c'est pour ça que je milite pour une mondialisation fraternelle dans des choses très simples comme s'occuper des questions de la vaisselle, mm-hmm. mais aussi les grandes institutions aujourd'hui, comment organiser la vie pour que chacun soit frère et sœur en humanité.
Donc vous aviez une foi, on va dire, de par une éducation, et après vous avez parlé d'illumination, on peut parler de révélation aussi, c'est-à-dire Dieu vous a parlé?
Alors Dieu ne parle pas, il ne parle ni latin, ni grec, ni hébreu, ni araméen, ni arabe. Mais par contre, il parle au cœur. Enfin, c'est ce que les prophètes dans la tradition juive disent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la religion n'est pas simplement extérieure, mais elle devient intérieure. Et donc c'est ce que les musulmans, notamment dans les traditions soufis, appellent la religion du cœur. Mmh. Et là, à ce moment-là, on est justement dans une religion d'amour et qui est de l'ordre de la révélation, mais c'est une révélation dans l'intime de l'être. qui est toujours difficile à expliquer, oui. Et qui, d'une certaine manière, est l'apanage des pauvres, enfin, ce qu'on appelle en hébreu les anawim, ceux qui sont humbles ou tout simplement humiliés par la vie. Ils n'ont peut-être pas de poste de télévision, peut-être pas de maison extraordinaire ni de voiture, mais ils ont la capacité de cette rencontre avec Dieu, et c'est souvent eux qui nous apprennent le bonheur dans une pauvreté de moyens. Alors, ce n'est pas une apologie de la misère, mais c'est simplement arriver à reconnaître que au plus profond de notre humanité, en fait, les choses sont très simples, et que c'est la qualité de relation avec le plus intime de nous-mêmes. Alors, vous trouverez dans la tradition hindoue, par exemple, la question de l'Atman et du Brahman, mm-hmm. c'est-à-dire à la fois cette immensité de la divinité, mais qui est en même temps en nous, et finalement, c'est la même réalité. Dans le christianisme, on insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une fusion, et j'en ai discuté avec Lambert Wilson quand on a travaillé sur le film Des hommes et des dieux. Il utilisait souvent ce mot fusion, et je vous ai remarqué que pour nous, c'est la communion, la koinonia en grec. Donc à la fois, nous restons profondément nous-mêmes, et nous devenons d'ailleurs de plus en plus nous-mêmes, mais en même temps, c'est une réalité de communion qui nous relie aux autres. Voilà. Et ça,
vous savez que communion, communiquer, c'est la même racine, hein, justement. Donc je reviens à la communication avec Dieu. Vous l'avez ressenti ?
Alors, ressenti, oui, puisque je vous dis, ça m'a apporté la paix et la joie. Donc je suis moi...
C'est comme ça qu'il vous a parlé, en fait.
Ouais. Pour okay. moi, c'est passé par les sens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient, justement, beaucoup de...
Voilà, ouais, des sens, oui.
Voilà, que voilà.
Est-ce que c'est pas un délire, hein?
Voilà, est-ce que c'est pas un délire? Et je me suis posé oui. très honnêtement cette question après cette expérience, et je me suis dit, voilà, c'est peut-être la méthode Coué, vous n'êtes pas très bien, et vous dites, bah, finalement, Dieu existe, et il finit par exister à vos yeux.
Mais et c'est même à le ressentir voilà. comme un délire.
Voilà. Mais c'est une illusion, ça peut même être une fuite du réel. Et donc, tout mon travail, quand j'ai commencé à lire des choses à la fois sur... enfin sur toutes les traditions religieuses, c'était de vérifier et d'essayer de comprendre les différences entre les uns et les autres et de voir s'il y avait une réalité de l'expérience ou si justement c'était une espèce de délire, ce qui est la thèse d'un certain nombre de gens par rapport à la question justement de la divinité, c'est de se dire bon finalement tout ça n'est qu'un vaste délire psychologique.
On a imaginé, peut-être l'homme a imaginé Dieu,
voilà,
ouais.
Voilà. Et moi je pense au contraire que si vous voulez, autant il y a, et c'est la tradition juive, beaucoup d'idoles, y compris religieuse, parce qu'on peut idolâtrer aussi son heure d'oraison au point d'être extrêmement violent si tout à coup elle est gâchée par je ne sais quelle personne qui vient vous demander de l'aide. Mm-hmm. Donc ça va très loin. Saint Jean de la Croix a très bien analysé ça dans un de ses ouvrages. Mais fondamentalement, je crois qu'il faut reconnaître, et Saint Paul le fait dans ses lettres, les fruits de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint, c'est la paix, la joie, donc c'est aussi des sentiments. Il n'y a aucune honte à avoir, et les gens sont toujours très heureux d'avoir quelqu'un de souriant, de joyeux. Mais la joie, ce n'est pas simplement l'éclat. D'ailleurs, s'éclater, c'est totalement contraire au contraire à cette spiritualité de l'unification. Mmh. Mais cette unification, elle rayonne. Voilà, elle rayonne, et ça, c'est palpable. D'ailleurs, vous parliez de la communication. Les spécialistes en communication disent toujours que quand on communique, 70% de ce qu'on communique, c'est la voix, les attitudes, etc. C'est non-verbal.
Mmh, absolument.
Et je crois que finalement, ça reflète bien cette expérience spirituelle qui dépasse les mots. L'apôtre Paul dit voilà, dans l'Épître aux Romains que voilà, et nous gémissons, et la création tout entière gémit dans un travail d'enfantement. Et donc, la prière, c'est aussi un cri. Donc il y a quelque chose un peu d'archaïque en nous, de très profond, et qui effectivement ne se laisse pas enfermer dans des mots, même si dans l'histoire humaine, ça a été très important de passer à la parole et puis après à l'écriture. Mais elle nous renvoie aussi, cette parole et cette écriture, à une expérience essentielle qui n'est pas communicable sans doute uniquement par des mots.
Donc rencontre personnelle, on va dire, avec Dieu à l'âge de 20 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Et entre 20 et 28, donc entre-temps, vous terminez vos études et vous êtes trader. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus rester trader ? C'est plus compatible ?
Voilà,
vous avez dit que c'était un cheminement, mais il y a un moment donné, vous avez stoppé.
Oui, alors si vous voulez, les cheminements, c'est comme la bourse, hein, ça monte et ça descend, et ce qui compte, c'est la tendance. Alors, à travers un certain nombre d'événements, progressivement, ce qui s'est passé en moi, me semble-t-il, si j'arrive à le comprendre, c'est que comme le dit aussi Saint Paul, l'homme intérieur se fortifie. Donc si vous commencez à faire vivre en vous cette dimension spirituelle, eh bien cette réalité intérieure, elle finit par prendre la première place, ou en tout cas elle tente de prendre la première place, et à un moment donné vous allez aborder des questions que vous pouviez aborder d'une autre manière, non seulement sous un jour rationnel dans lequel vous pourriez peser le pour ou le contre, mais comme le disent les prophètes d'Israël, c'est un feu dévorant. Voilà. Et à un moment donné, voilà, cette décision s'est imposée. Après en avoir parlé non sans difficulté avec un prêtre, de démissionner de la banque. Et donc je suis arrivé, effectivement, il y avait un caractère un peu surprenant et brutal pour mes interlocuteurs, mais pour moi c'était le fruit d'un long cheminement.
Non, c'est pas soudain.
Voilà, et dans lequel il a fallu dire, voilà, je démissionne. Et ça en a surpris plus d'un, puisque j'étais en négociation à l'époque avec une grande banque américaine qui est Merrill Lynch, qui me proposait des ponts d'or et qui a été un petit peu surpris que je ne réponde pas oui. Et donc mon interlocuteur m'a dit, mais je ne comprends pas, qui peut vous proposer plus. J'ai trouvé cette formulation intéressante, puisque je lui ai répondu, ben, c'est pas plus, mais c'est mieux. Il m'a dit, mais je ne vois toujours pas. Et je lui ai dit, ben, je vais partir pour un monastère. Et là, il a eu le panache anglo-saxon de me dire, c'est la seule concurrence que j'accepte.
Ah, d'accord, mais c'est beau.
Oui, c'est beau.
C'est beau, parce qu'il ne pouvait pas rivaliser, là.
Mais j'ai trouvé ça intéressant, et je trouve que c'est éclairant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans les logiques d'affrontement, de l'argent, de la question des revenus, etc., c'est que le spirituel, tout à coup, vous ramène à l'essentiel de l'essentiel, peut-être de manière brutale et prophétique. Et je dirais que c'est un peu comme une caricature, ça force le trait. Tout le monde n'est pas appelé forcément à prendre ce genre de décision. Mais ça a le mérite de poser de manière un peu brutale le fond de la question, c'est-à-dire à quoi bon gagner de l'argent ? Et c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, à quoi bon courir le monde ? À quoi bon accumuler de l'argent si ce soir on peut vous reprendre votre vie ? Donc il faut se poser la question du sens. Et l'être humain, alors certains peut-être plus que d'autres, ça dépend des moments de nos existences, mais et c'est pour ça, c'est ce qui me rend toujours extrêmement optimiste pour l'avenir de l'humanité, même s'il peut y avoir des batailles qu'on perd, c'est que finalement, quand vous regardez le XXe siècle, Hitler et Staline, on en parle souvent, ça a été terrible, mais c'est Gandhi et Martin Luther King qui ont gagné leur bataille. L'Inde est devenue indépendante, les États-Unis ont été capables de se choisir un président métis, et c'est pas la fin du monde. Donc on voit très bien que ces personnes qui ont été assassinées, finalement, leur esprit, lui, a gagné le monde progressivement. C'est imparfait, mais c'est un combat qu'il faut toujours reprendre.
Alors on a encore beaucoup de choses à se dire. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Dieu dans tout ça, où on pourra aborder Tamier. Pour ceux qui, en attendant, veulent aller plus loin, on peut citer Moine des Cités de Wall Street au quartier nord de Marseille, aux éditions Nouvelle Cité. Et votre dernier ouvrage, Secret des hommes, secret des dieux, l'aventure humaine et spirituelle du film des hommes et des dieux, c'est aux presses de la Renaissance. À la semaine prochaine, Henri Quinson.
Merci.
Tac, et on...